Bonjour à chacune, à chacun. Alors, ce matin, on est déjà dans notre dernier volet de ce qu'on appelle la force d'aimer, puis je l'ai intitulé « Aimer Dieu ». Et puis, on va parler, vous allez voir, d'argent, mais pas que. On part toujours d'un point quand on parle d'argent. Et puis, ce matin, j'ai choisi pas un point très personnel, mais un point plutôt pour essayer de décrire la société dans laquelle on est. Alors, un peu le trend actuel. Alors, déjà, quand on parle d'argent, c'est important de parler un peu l'anglais. Ça, vous allez voir, si vous êtes dans l'économie, il faut toujours avoir des mots un peu anglais. Il y a squeeze, il y a trend. Là, c'est le trend. Le trend actuel, ça veut dire la direction dans laquelle on prend. Hein, Naya, tu me confirmes qu'en HEC, on parle anglais. Le trend actuel, c'est qu'il faut toujours augmenter, hein, croître. Et vous savez ce qu'on doit augmenter? Notre satisfaction ou notre bien-être. Ça, c'est la base de la société dans laquelle on est. C'est le trend actuel. On regarde dans cette direction. On doit augmenter au maximum notre satisfaction, notre bien-être. Alors, c'est un peu spécial parce que c'est d'abord pour soi quand même. Et puis ensuite, si pour la société ça marche aussi, c'est pas mal. Mais généralement, c'est d'abord pour soi. Au début de cette manière de penser, c'était d'abord pour l'ensemble de la société. Maintenant, ça s'est un peu concentré sur nous-mêmes, notre individu. Puis comme les flèches, elles ne peuvent pas qu'aller dans un sens, elles doivent aussi aller dans un sens qui descend. Et puis alors, qu'est-ce que vous pensez que c'est bien que ça descende comme ça, à part les déficits? J'ai pas encore compris. La collectivité, ouais, ça descend un peu, mais qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce que c'est bien moralement que les choses descendent? Vous avez une... La souffrance, exactement. Donc vous êtes bien dans votre société, c'est bien dans notre société dans laquelle on vit. C'est bien qu'on augmente notre satisfaction, notre bien-être, et c'est bien qu'on puisse descendre au maximum, faire baisser notre souffrance. Puis, je ne sais pas si vous savez, mais ça, c'est ce qui est considéré comme étant moralement bon actuellement, puis c'est une morale qui porte un nom. Vous pourrez aller regarder après sur Wikipédia à la fin du culte. C'est une morale qui s'appelle utilitariste, c'est-à-dire que on a besoin que quelque chose nous apporte un résultat, qu'elle soit utile. Et puis, ça doit être utile dans cette direction d'augmenter ma satisfaction, mon bien-être, ou notre satisfaction, notre bien-être, et puis de descendre au maximum notre souffrance. Alors, un des excellents moyens pour mettre en œuvre cette morale utilitariste, c'est de pouvoir compter sur quelque chose comme l'argent. Parce que l'argent, ça produit des résultats. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Alors, moi, je suis allé me balader à la Migros, et pour 3,55 francs, qu'est-ce que vous pensez qu'on obtient? Alors, je vous annonce que pour 3,55 francs en action cette semaine à la Migros, vous avez droit à un paquet de Kinder Surprise. Donc, on a un prix de l'argent, on augmente notre satisfaction et notre bien-être, et on s'achète des Kinder Surprise. Ou on augmente le bien-être de la famille, par exemple, avec des Kinder Surprise. Je ne suis pas sûr qu'on l'augmente très longtemps parce que suffit qu'on n'achète pas le bon nombre et puis le bien-être familial, il descend tout de suite très très vite. Puisque les enfants ont plutôt tendance à se taper dessus. Donc, on peut augmenter, mais parfois, il peut vraiment descendre ce bien-être, suivant comment on se plante. On augmente tout de suite, on change de catégorie, 100 francs. Qu'est-ce qu'on peut obtenir pour 100 francs? Alors là, je suis allé chez Interdiscount, Je me mets à nu devant vous, c'était le mois passé. Moi, j'ai craqué pour ceci. Alors, du coup, je vais dans toutes les rues de Nyon le soir et puis j'embête les voisins comme les jeunes hier soir sous ma fenêtre et je mets de la musique avec mon téléphone. C'est une enceinte qu'on peut porter tout partout et puis qui marche par Bluetooth. Alors, ça, on l'a pour 100 francs. De nouveau, on a une somme, on achète quelque chose, résultat immédiat et ensuite j'augmente ma satisfaction parce que je peux écouter de la musique. N'importe où, n'importe quand. Et puis, ça augmente aussi mon bien-être. On va aller un peu dans des autres catégories. 750 francs. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut obtenir avec 750 francs? Pardon? Des skis, exactement. Une nouvelle paire de skis. Alors, je n'ai pas pris le modèle exceptionnellement cher, non, effectivement, mais j'ai senti un peu la neige. Moi, c'est une marque que j'aime bien, c'est K2, je ne fais pas de pub. J'ai que des skis K2. Et c'est vraiment une marque qui me porte beaucoup de satisfaction. J'ai l'impression que je peux aller découvrir des grands espaces grâce à cette paire de skis. En plus, sur cette paire de skis-là, je peux mettre des fixations de skis de randonnée, c'est-à-dire que je peux aller faire de la rando, de la poutrefogue avec Raymond à la Dôle ou quoi que ce soit. Donc, j'augmente de nouveau ma satisfaction parce que j'ai une somme d'argent. Clac, un résultat, clac, qui tombe, et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Puis alors là, on va carrément dans une autre catégorie avec XXX francs, tout simplement parce que je ne sais pas combien ça coûte. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qu'on a... Ah, c'est pas combien ça coûte. Un yacht, exactement. Un yacht, exactement. Bien joué, Valérie. Bon, ça c'est cool parce que je pensais tout de suite que vous alliez être spirituel, mais non, ça fait plaisir. On ne sait pas combien ça coûte. Et puis, ça c'est une photo que j'ai prise cet été à Saint-Tropez. Donc, ce que j'ai trouvé très rigolo, c'est que même si on a assez de moyens pour se payer un yacht, c'est qu'il y a toujours le voisin qu'on a plus gros que soi. Donc, finalement, on n'est jamais au haut du sommet de la pyramide parce que ma satisfaction, elle sera toujours mise en concurrence avec celui qui a le yacht plus gros à côté. C'est assez intéressant parce que là, c'était vraiment frappant de voir que bon, il y a les petites barques de pêcheurs. Ça, c'est, voilà. Et puis ensuite, il y a ce parking de yacht là à Saint-Tropez. C'était impressionnant. Donc, on est dans ce monde-là. On a une somme d'argent. Clac, ça donne un résultat. Et avec ça, on augmente notre satisfaction et notre bien-être. Voilà de où on part un peu quand on parle d'argent au XXIe siècle, en 2018 à Nyon. Alors avec Dieu, on va faire un parallèle évident. Si je donne 5 francs, résultat, une bénédiction. Si je donne 100 francs, une... Deux bénédictions. Puis alors, si je donne 1 000, alors là, c'est la classe ultime. Une, deux, trois bénédictions. Magnifique. Oh, c'est pas très, très. J'aurais dû mettre 200, peut-être. Je peux en mettre une quatrième si vous voulez. Donc là, c'est le trend aussi actuel, donc la direction dans laquelle on regarde. Ça, c'est trois petites lettres. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ça veut dire roi. Mais c'est les trois petites lettres qui gouvernent le monde, ça. C'est Return on Investment. Alors, avec Dieu, ça marche très bien. Si vous donnez 5 francs, vous avez une bénédiction. 100 francs, deux bénédictions. 1 000 francs, trois bénédictions. Hein? Vous êtes bien d'accord? C'est comme ça que ça marche. Non, amen. Évidemment, on est tous d'accord, on dit non. Mais toujours est-il que ce n'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, parce qu'on est jusqu'au cou là avec cette morale utilitariste qu'on donne, on a un résultat, on a de l'argent, clac, ça nous revient en retour. Donc, de vraiment complètement dissocier le bain dans lequel on est tous les jours, et puis d'envisager les choses différemment avec Dieu, c'est pas si facile que ça. Et d'ailleurs, cette relation un peu donnant-donnant avec Dieu, c'est une relation, ce qu'on appelle païenne, et puis on la retrouve dans toute l'Écriture. Le veau d'or, par exemple, c'est typiquement une relation donnant-donnant. On donne un peu, puis on attend ce que Dieu nous donne directement quelque chose d'autre. Quand Jésus, il dit, il critique la prière des païens, de dire, mais ils demandent, ils n'arrêtent pas de demander, 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 c'est parce que plus tu demandais, plus tu avais de bénédictions qui te tombaient en retour. Et puis, actuellement, une des théologies qui est les plus populaires, c'est une théologie qu'on appelle la théologie de la prospérité, qui fonctionne exactement sur ce phénomène-là, que si on donne beaucoup, on va recevoir beaucoup. Point. Et on s'arrête là. On est actuellement pris là-dedans, puis vous, comme moi. On ne peut pas simplement se dire, oh non, je suis très loin de ça, et puis être choqué par ça. On est un peu là-dedans, parce qu'on s'attend aussi un peu, d'une certaine manière, à quelque chose de la part de Dieu. Mais, dans le même temps, on est aussi mal à l'aise par rapport à ça, et on a bien raison d'être mal à l'aise. Et puis, si on réfléchit 2 secondes à ce qu'on fait ici, dans ce bâtiment, pour lequel on a effectivement investi beaucoup d'argent. Si on regarde au niveau du ROI, Return on Investment, tu es d'accord, Jean-Claude, que de faire une salle de culte, il n'y a rien de plus lamentable au niveau retour sur investissement. Si on devait valoriser cet espace qu'on a là, ici, on ferait en tout cas tout sauf une salle de culte. On ferait des bureaux, on pourrait faire un immeuble de rendement, on pourrait faire 36 autres choses, mais une salle de culte où on loue un Dieu qu'on ne voit pas. On lui chante même des paroles très profondes. On écoute sa parole alors que c'est simplement un pasteur qui est devant nous. On prend place à sa table pour un repas qu'il a institué il y a plus de 2000 ans, et puis on consacre tout un bâtiment uniquement pour ça. Ça n'a rien à voir. On est complètement à côté de la plaque. Et de toute manière, qu'on parle de patois de Canaan ou pas, cette pratique du culte, ce moment central de notre vie d'église, elle reste, pour cette raison-là, complètement hors circuit de nos contemporains. Et ce n'est peut-être pas un mal, parce qu'on fait quelque chose d'une certaine manière, complètement irrationnel, parce qu'on loue quelqu'un qu'on ne voit pas, on l'écoute quelqu'un qu'on n'entend pas directement, et puis on se met à sa table de quelqu'un qui nous invite, mais qui n'est plus vraiment là. Et on décide de consacrer une grosse partie de notre budget, de notre temps, pour louer précisément cette personne-là. Il y a quelque chose d'irrationnel dans ce fonctionnement, et on voit bien que là, cette théorie de je donne une certaine somme d'argent, j'ai un résultat, je donne un certain truc, il y a quelque chose qui me vient en retour. Avec Dieu, il y a un décalage. Et c'est ce qu'on voit dans quantité de textes, puis qui lie vraiment cette idée de l'offrande, du don, avec cette idée de la louange. Je vais vous lire deux extraits de psaumes qui sont autant de chants de louange, de prières qui ont été composés il y a plus de 2500 ans, 3000 ans, et qui nous touchent exactement de la même manière parce que on est toujours dans cette même direction, d'une forme d'irrationalité, d'adresser notre louange à Dieu. Seigneur, ton amour va jusqu'au ciel. Ta fidélité monte jusqu'aux nuages. Ta justice déplace les plus hautes montagnes et tes décisions sont profondes comme la mer. Ton amour, mon Dieu, est vraiment précieux. Et les humains que nous sommes s'abritent à l'ombre de tes ailes. Dans ta maison, tu leur donnes une nourriture abondante. Tu les fais boire au fleuve de ta bonté. La source de la vie est en toi. À ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui te connaissent et ta fidélité à ceux qui ont le cœur pur. Et puis un peu plus loin, dans le livre des psaumes, si on le parcourt, au psaume 42, « Comme une biche désire l'eau du ruisseau, ainsi je te désire, toi, mon Dieu. » J'ai soif, soif du Dieu vivant. Quand pourrais-je entrer dans son temple et me présenter devant lui? Jour et nuit, je passe mon temps à pleurer, car on m'a dit sans arrêt, « Et ton Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait? Où est-il? » J'ai des souvenirs qui me touchent le cœur. Autrefois, je marchais en tête de la procession. J'avançais vers la maison de mon Dieu, dans la foule en fête, parmi les cris de joie et de louange. Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de la vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Amen, ouais. Amen. Ce cri de louange, ce ne peut être que la seule raison d'offrir quelque chose à Dieu, que ce soit notre argent, que ce soit notre temps, que ce soit notre cœur et notre personne en entier. Parce qu'il y a plein d'autres choses beaucoup plus rentables à faire que d'offrir quelque chose à Dieu. Il y a plein de choses beaucoup plus meilleur investissement en termes de morale utilitariste que de louer Dieu. On se rend bien compte qu'avec Dieu, tous ces cadres-là de rendement explosent. Et en pratiquant concrètement ce matin, parce qu'on va faire l'exercice après, très concret, d'une offrande spéciale vécue sous le signe, non pas d'un retour sur investissement, mais sous un signe de louange, je pense que là, nous posons, et en communauté, un acte fort qui va à l'encontre d'une certaine logique utilitariste. Parce qu'on pose un acte de reconnaissance envers Dieu, et on dit aussi par notre argent qui il est pour nous. On dit aussi par notre argent qui compte à nos yeux, et que nous l'aimons. pas d'abord parce qu'il nous apporte si ceci ou cela d'utile dans notre vie. Ce sera sûrement le cas, je suis sûr. Mais plus fondamentalement, on pose cet acte de louange parce qu'on aime notre Seigneur, tout simplement. Pas parce qu'on s'attend à ce qu'il nous apporte telle ou telle bénédiction, mais fondamentalement, c'est un élan de notre cœur, comme le psalmiste, parce qu'il est notre Dieu, notre Sauveur et notre Créateur. Puis je pense que l'Église, et là on a une chance incroyable, l'Église c'est un des derniers lieux dans notre société qui résiste à la logique du tout marchand. C'est-à-dire que tout peut se payer, se monnayer et avoir quelque chose de retour sur investissement. C'est un des derniers lieux qui résiste à ça, où on n'arrive pas à dire « mais qu'est-ce que ça vaut une prière ?» Aucune idée. Qu'est-ce que ça vaut l'amour que j'ai pour Dieu ? Impossible de le mesurer. Impossible d'avoir un résultat qui soit clair. Alors ce matin, vraiment, nous pouvons vivre un acte fort et à contre-courant, au cœur même de ce qui fait fonctionner notre société, à savoir l'argent. Au cœur même de ce qui peut nous éloigner de Dieu puis nous faire avoir une mauvaise image de Dieu, c'est-à-dire on est dans une relation de donnant-donnant, influencée par l'argent, parce que l'influence de l'argent, on l'a vu à d'autres reprises, elle est impressionnante. Dieu l'appelle, Jésus l'appelle Mammon, donc un esprit qui lui donne un nom spécial. Au cœur même de cela, on peut offrir notre louange et prendre le contre-pied magistral de ce qui nous est proposé. Et on peut le faire, on a la chance de le faire en communauté. On a beaucoup insisté ces derniers temps sur l'amour du prochain. Ce matin, nous sommes dans l'autre catégorie, l'une étant entièrement dépendante de l'autre. Nous sommes dans l'amour de Dieu, qui nourrit l'amour du prochain et vice-versa. Cet amour de Dieu que l'on peut exprimer avant tout, et dans la Bible, c'est de la Genèse à l'Apocalypse, à travers notre louange, à travers ce qu'on a de meilleur à lui donner et ce qu'on a envie de lui donner du plus profond de notre cœur. La force d'aimer Dieu, c'est un temps d'offrande comme un temps de louange. C'est un temps d'offrande où on se dit, là maintenant, je mets de côté toutes les autres catégories et je me place face à Dieu, parce que de toute manière, comme l'école du cours de France, il est hors catégorie. Je ne peux pas appliquer la même logique dans ma relation avec Dieu que ce qui se passe dans notre société. Alors, c'est vraiment un temps particulier qu'on pourra prendre de manière très concrète ce matin pour notre communauté, pour l'Église, pour tout ce qu'elle soutient également, de dire on va exprimer notre amour envers Dieu et ça va nous demander effectivement de la force. Parce que ce n'est pas évident de se dire je vais sortir mon porte-monnaie et je vais donner quelque chose que j'ai sur mon cœur. Là, on voit aussi une dimension de cette force d'aimer comme celle qui demande de la force lorsqu'on fait monter notre louange et qu'on n'a pas forcément envie. Et pourtant, Dieu reste le même et il accueille ce que nous avons sur nos cœurs. Alors qu'on puisse le vivre, évidemment, en toute liberté, chacun selon ses moyens, ce qu'il a résolu en son cœur, mais complètement dans cette direction-là de louange et non pas de retour sur investissement. De dire merci, de dire notre amour et pas en pensant dans le creux de notre tête ou dans l'arrière de notre tête, si j'ai donné ça, je vais recevoir ça. Ça, c'est une théologie dont on n'a pas envie ici. Mais par contre, on va pouvoir dire, il y a mon cœur qui s'ouvre vers toi. Et j'ouvre aussi mon porte-monnaie, tout simplement ce matin.